C'est dans le livre du prophète Ésaïe et dans l'évangile selon Luc que je vous propose que nous entendions des textes bibliques pour nourrir notre méditation ce soir. Dans le livre du prophète Ésaïe, tout d'abord au chapitre 7, à partir du verset 10, c'est lorsque le roi Akaz est malmené, il est face à une armée ennemie et il se sent en mauvaise posture. Et l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Et Akaz répondit « Je ne demanderai rien. Je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. » Et le prophète Ésaïe dit alors « Écoutez donc. » Maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Et un peu plus loin au chapitre 9, à partir du verset 5, nous lisons ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Et dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, l'un des deux récits de la Nativité, c'est au verset 1, et suivant, que nous lisons qu'en ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Cela afin de s'inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dieu notre Père, fais qu'en ce jour, notre cœur chante également vraiment Noël. Que nous répondions à ce don merveilleux dans un élan de reconnaissance et de foi. Toi qui as choisi pour te révéler à nous l'humilité de la crèche, ouvre nos âmes au mystère de ta venue. Rends-nous humbles de l'humilité de Jésus, obéissant de son obéissance, aimant de son amour, afin que nous entrions dans ta joie. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? Chers frères et sœurs, ne vous êtes-vous jamais demandé si par hasard vous ne lassiez pas Dieu ? Quand je dis vous, je m'inclus évidemment. Dieu n'en aurait-il pas assez de nous ? Moi, à sa place, pour vous le dire franchement, je finirais par désespérer un peu quand même de l'être humain. Je ne suis pas Dieu, et c'est heureux pour vous, et pour moi aussi, mais est-ce suffisant de penser que Dieu vaut mieux que nous pour pouvoir penser tranquillement que nous ne le lassons pas, que nous n'entamons pas sa patience? Car reconnaissons-le, il y a tout de même de quoi se lasser de l'homme, même quand on est Dieu. Songez que cela fait plus de 2000 ans maintenant. Plus de 2000 ans que l'Évangile a retenti au cœur de la nuit de Bethléem. 2000 ans que la bonne nouvelle de la présence active de Dieu parmi son peuple s'est répandue à la surface de toute notre bonne vieille terre. Et la vie est pourtant loin d'être vraiment encore merveilleuse. Oui, bien entendu, depuis 2000 ans, il y a eu de sérieuses avancées et de sérieux progrès. Des progrès en matière de justice, des progrès en matière de droits individuels, des progrès en matière de conditions de vie et même d'espérance de vie. Mais avouez qu'il faudrait être sérieusement retiré des affaires du monde pour considérer que ça va bien comme cela et qu'il n'y a plus rien à faire. En 2000 ans, muni de l'Évangile, il me semble qu'on aurait pu faire mieux quand même. C'est mon point de vue. Mais il n'y a pas que Dieu pour désespérer du genre humain. Les hommes ont de quoi aussi se lasser de l'être humain. Et en particulier les non-croyants finalement. Je trouve que les non-croyants ont beaucoup de foi finalement pour ne pas désespérer des croyants. On peut se lasser des croyants à cause des intégristes. Mais globalement, si on regarde ne serait-ce que notre famille spirituelle, on ne peut pas dire que les croyants, que les chrétiens soient très enthousiasmants en toutes circonstances. Et je ne dis même pas cela lorsque nous avons des figures de personnes qui mangent des gâteaux secs. Mais à leur manière, les chrétiens ont de quoi lasser les non-croyants quand ils dépensent leur énergie à des débats internes pour savoir si un tel peut communier avec un tel, savoir si on peut autoriser ou non les femmes à exercer toutes les responsabilités au sein de l'Église, savoir s'il faut des signes de croix ou non pour bénir convenablement les personnes. Et pendant ce temps, on pourrait aussi parler du sexe des anges après tout, pendant ce temps, des milliers de personnes sont confrontées à des problèmes autrement plus importants, autrement plus sérieux. Des personnes qui sont inquiètes pour leur existence, pour leur avenir, et qui se lassent, et qui parfois perdent espoir. Certains désespèrent d'une vie meilleure, d'une vie aux couleurs de l'Évangile, d'une vie telle qu'on en entend parler dans la Bible, une vie où la paix est une vérité, où la grâce est quotidienne, des lendemains qui chantent, une vie où il n'y a plus de pinaillerie de voisinage, plus d'enfantillage dans les queues d'attente, plus de scandales financiers et plus de scandales politiques. Certains désespèrent d'une vie où ils cesseront de se sentir les grands perdants de l'histoire, d'être toujours écrasés par les autres, d'être une sorte de rouage, et encore, dans un énorme mécanisme qui les broie. Et ceux-là n'ont plus grand goût à grand-chose. Et en tous les cas, ils n'ont plus goût aux grandes choses. Et au fond, la situation est quand même assez paradoxale. Quand on réalise que cela fait 2000 ans, qu'il est donc loin le temps où l'Évangile n'avait pas de place pour accéder au monde. Il est loin le temps où l'Évangile n'avait pas de place dans la salle principale, mais devait aller crêcher dehors, en quelque sorte. Aujourd'hui, paradoxalement, l'Évangile a trouvé sa place sur toutes les étagères des bibliothèques, ou presque. Je crois qu'il y a autant de Bibles que de catalogues IKEA dans le monde. Il a trouvé sa place bien au chaud dans la plupart des foyers, et parfois même dans la pièce principale où il est mis en évidence. Mais cela ne suffit pas à ce que nous accouchions nous-mêmes de l'Évangile. Dieu est là, disponible, disposé à se mêler à notre histoire, et nous, nous sommes comme le roi Akaz. Oh non, non, ça va aller. On va se débrouiller tout seul. On ne va pas déranger Dieu tout de même. Non, non, on ne lui demandera rien. On ne va pas le provoquer, mais on va le laisser tranquille. Ah, la belle affaire. Il est bien avancé, notre roi Akaz, à vouloir régler seul ses problèmes plutôt que se confier à Dieu. Et nous ? Eh bien, nous n'avons pas de quoi être très fiers non plus sur la conduite du monde que nous voulons mener nous-mêmes comme des grands. Nous sommes finalement assez proches de la situation du roi Akaz, loin d'une vie sans souci et qui hésite, qui se lamente, qui rechigne à faire appel à Dieu. Et du coup, Akaz se morfond. Il se met même à désespérer et à désespérer ceux qui avaient placé en lui leur confiance. Et comme Akaz, à leur tour, j'imagine toutes ces personnes baissant les bras, se laissant aller, cessant de rêver, se résignant. Ils se lassent et pourquoi pas, il se pourrait bien qu'ils lassent Dieu. Sauf que Dieu, fort heureusement, ne manque pas de ressources et qu'il ne se lasse pas si facilement. La lassitude gagne les troupes, qu'à cela ne tienne, Il réagit par un signe. Une jeune fille va mettre au monde un enfant dont le nom, Emmanuel, incarnera parfaitement le fait que Dieu n'abandonne pas le monde à la dérive, mais qu'il insiste, et qu'il insiste encore, pour nous aider à reprendre pied dans notre vie et à faire face. Un enfant, c'est sûr, c'est un excellent remède contre la lassitude. Car il faut vraiment vouloir s'ennuyer quand on s'occupe d'un enfant. Mais, oh, d'un adolescent aussi d'ailleurs. Mais le bénéfice de ce signe offert par l'Éternel n'est pas d'abord de se laisser attendrir par un petit bout de chou adorable. Le premier bénéfice, c'est de réapprendre à dire oui à la vie. C'est le oui de la jeune fille. C'est le oui de Marie. Qu'il soit fait selon ta volonté. Je suis ton humble servante. Je dis oui. C'est d'accord. Mesdames, c'est aussi le oui de Joseph. Je ne l'ai pas repris, mais Joseph aussi adhère au projet de Dieu. Oui à la vie. Oui à l'action. Oui pour entreprendre. Même si à première vue, cela semble compliqué ou compromis, voire fichu. Oui, même si à première vue, il n'y a pas vraiment de place, voire pas du tout de place, pas franchement de marge de manœuvre. Le premier bénéfice de cette nativité de Noël, c'est de nous redonner goût à la vie, même si le contexte est hostile, même si nous sommes confrontés à l'inimité, même si nous sommes face à des ennemis qui sont prêts à nous retirer la vie. Noël, c'est d'abord un énorme oui. C'est le oui de l'adoption, c'est un oui à la vie. Le deuxième bénéfice est relatif à l'éducation que suppose cet enfant. Car il ne s'agit pas de mettre au monde un enfant de plus, histoire peut-être de compenser la mort prochaine d'Akaz. On ne met pas un enfant au monde pour équilibrer les naissances et les morts, pour équilibrer la pyramide des âges, pour payer les retraites. L'Emmanuel qui vient au monde est qualifié de titres éloquents qui disent à quel point son existence a du sens, à quel point sa vie est bien plus qu'une unité qui sera retenue dans le recensement qui accourt. Conseiller admirable, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Eh bien, nous avons là une bien belle carte de visite. Une carte de visite qui pourrait faire office de déclaration de foi à chaque fois que nous essayons de balbutier quelque chose sur ce Dieu-là. Emmanuel, Dieu qui se rend présent au cœur de l'humanité. Emmanuel, Dieu avec nous, littéralement. Eh bien, c'est Dieu qui cherche à nous conseiller, c'est Dieu qui cherche à nous affermir, à nous rendre plus forts, c'est Dieu qui cherche à nous féconder comme le fait le Père, c'est celui qui nous permet d'établir la paix, le Prince de la paix. La nativité, c'est le projet de Dieu qui s'incarne, qui prend chair, qui se réalise, qui cesse d'être du côté des belles idées, des grands théorèmes, pour se concrétiser dans l'histoire, dans notre histoire. Noël, c'est un projet éducatif. C'est Dieu qui s'efforce de nous rendre plus humains en nous faisant reparcourir le chemin de l'humanité, depuis l'enfance et ses apprentissages, vers cette vie tant espérée où la paix devient un véritable art de vivre, selon les termes que nous trouvons un peu plus loin chez Ésaïe, au chapitre 11, vous savez, ce chapitre où il est question du loup et de l'agneau qui séjournent ensemble. et que le pasteur Pernaud nous a présenté il y a 2 semaines. Se nourrir de lait et de miel pour apprendre à discerner le bien et le mal. Voilà qui n'est pas banal. C'est le signe que Dieu nous fait opter pour un système de référence qui est fondé sur la douceur plutôt que sur la violence. Le lait et le miel pour apprendre à discerner le bien et le mal. Pour appréhender la vie, pour éclairer nos choix, pour nous orienter, Dieu nous propose de nous régler sur la douceur et sur l'amour, plutôt que sur la violence et sur la haine. On pourrait se dire, pour résister dans un monde de brutes, soyons des brutes avec les brutes, soyons des loups avec les loups. Dans un monde de brutes, au plus fort de la violence exprimée par le climat de guerre qui surprend le roi Akaz, la douceur, le lait et le miel, reste le système de référence privilégié par Dieu. Le signe de l'enfant qui naît est une manière de nous entraîner dans une vision apaisée, attendrie peut-être, une vision du monde qui se met au diapason de cette berceuse que vous avez entendue. Peut-être la plus ancienne berceuse que nous connaissions. Une berceuse qu'a conservé le texte hébreu qui dit ainsi, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et en hébreu, cela sonne comme une berceuse. Ki yeled yulad lanu ben nitan lanu. Ki yeled yulad lanu ben nitan lanu. Noël est une comptine, mais pas une comptine pour nous faire dormir debout. C'est une comptine qui nous atteste que la douceur, c'est le mode de vie qu'il faut privilégier. Oui, bien sûr, il serait curieux si nous nous adressions à nos contemporains en leur chantant des berceuses. Et pourtant, aller vers l'autre avec l'esprit de Noël, c'est aller de la même manière que le père ou la mère se rend vers son enfant. Ki yeled yulad lanu ben nitan lanu. C'est la douceur qu'il faut privilégier dans la vie. Frères et sœurs, peut-être pourrions-nous essayer de retenir en cette veillée de Noël que Dieu, loin de se lasser de nous, nous fait éprouver sa présence agissante pour nous sauver de notre propre lassitude, de l'ennui mortel, du désespoir. Et d'autre part, constatons que la voie ouverte par le Christ, ce chemin qu'il a emprunté, atteste que nous pouvons envisager la vie non pas sur le régime de la violence ou de la dureté, mais que nous pouvons envisager la vie avec douceur et avec délicatesse. Amen.